France Inter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La bataille de la Marne.
La victoire de la Marne fut le prélude impressionnant et décisif de la victoire finale.
Oui, mais avant la victoire, le recul au premier jour de septembre 1914, à Meaux. On a coulé les bateaux lavoirs sur la Marne, qu'enjambe un pont de fer qu'on a fait sauter. Les Allemands pourtant atteignent la ville, mais retournement, 15 jours plus tard, c'est eux qui reculent. Et en ville, les Français affichent, nous vous disons, le mot de Cambronne. En réalité, ce qui est depuis devenu légende n'a pas été sur le moment vécu comme tel. Et le nom pour désigner la bataille, longtemps incertaine, n'est pas venu aisément. On pensa au champ catalonique, mais ça faisait trop antique. À Paris-Verdun, c'était prémonitoire, mais ça faisait trop course cycliste. Et ce fut donc la bataille de la Marne. Au nord-est de Meaux, la ville emblème, on inaugure ce 11 novembre 2011 un vaste musée bâti autour de l'étonnante collection de Jean-Pierre Vernet. 30 000 documents, 20 000 objets. Prélude aux célébrations de 2014. Après la bataille de la Marne, la seule chose qui était en effet assurée, c'est que la Grande Guerre, et c'est la même chose pour sa mémoire, allait durer. Notre invité, François Cochet, bonjour.
Bonjour, Jean-Lebrun.
François Cochet a co-animé un colloque sur les batailles de la Marne. Il y a peu un dictionnaire de la Grande Guerre, là aussi en tandem, c'est chez Bouquin. Lafont, vous enseignez à Metz, à l'université, Metz était alors allemande, l'empereur Guillaume II, le Kaiser, couché à Metz le 2 décembre 1914.
L'empereur Guillaume II couche à Metz, il dormira bien ailleurs ensuite, ultérieurement, durant la Grande Guerre. Mais effectivement, je suis enseignant-chercheur à l'université de Metz, bientôt université de Lorraine, puisque nous allons fusionner Nancy et Metz.
Alors, on va parler de ce qui se passe en Lorraine, dans le Nord-Pas-de-Calais, fin août 1914, mais d'abord... Citons l'ensemble de la guerre européenne. Jamais dans l'histoire on a rassemblé autant d'hommes pour les mettre ensemble sous les armes. Jamais on ne les a mis en mouvement aussi rapidement et sur plusieurs fronts. Il y a le front austro-hongrois, le front russe.
Le front russe, le front austro-hongrois et le front occidental. La Grande Guerre, les débuts de la Grande Guerre, les premières semaines de la Grande Guerre sont la première vraie guerre de masse. Une guerre de masse qui est due à la montée de la conscription, par exemple en France. La loi de 1889 met tout le monde sac au dos, y compris les curés, selon l'expression. Et on dispose dorénavant d'un nombre de soldats absolument inouï, jamais vu. En 1914, la seule 5e armée française d'Anzac compte 350 000 hommes et 100 000 chevaux, pour vous donner une petite idée. 350 000 hommes, c'est la quasi-totalité de l'armée impériale de août 1870. Or, il y a 5 armées françaises en 1914.
Et sur le front russe, il y a combien d'hommes mobilisés sur le front de part russe, et d'autre
Alors, la mobilisation russe est partielle parce que les réserves démographiques russes sont absolument énormes. Il y a plusieurs millions de Russes mobilisés dès le départ et très rapidement, beaucoup plus rapidement que les Allemands ne l'avaient prévu. Ce qui fait d'ailleurs rejeu avec la bataille de la Marne parce que, effectivement, les Russes attaquent plus précocement que ce que les Allemands attendaient.
Et ils aimantent beaucoup
d'Allemands. Et ils aimantent absolument des troupes allemandes.
Et les troupes allemandes peuvent être en état de pénurie sur le front occidental. Ça ne se voit pas tout de suite parce que
ça ne se voit
si
pas
on commence par le commencement, il faut bien dire qu'au départ, au mois d'août, les Français reculent. On les a extraits des travaux des champs, on les jette dans un drame qui devient très vite retraite.
Oh, Pimer, ben laisse-moi lire.
Tu sais lire, toi?
Ben, je m'apprends.
Allez, donne-la-moi, ta bafouille. Mon Ernest, je t'écris cette lettre qui, j'espère, te trouvera en bonne santé pour te dire qu'il en est de même ici, sauf pour la Rouchette. On dirait qu'elle s'ennuie de toi. J'aurais voulu t'écrire tout de suite, mais tu dois bien douter que je ne suis pas la seule.
Ouais, forcément, c'est le curé qui fait les lettres pour la moitié du village.
J'ai commencé à tricoter un gros chandail pour toi.
Dis donc,
ouais.
Tu te fous de moi?
quoi?
Tu lis pas la lettre, tu la regardes même pas.
Oh, tu sais, depuis un mois, je te la relis, ta lettre, je commence à la savoir par cœur.
Oh, un mois, t'exagères.
Tu l'as reçue au dépôt, avant qu'on parte.
Mais c'est quand même pas de ma faute si on n'a plus jamais vu le vague-mestre.
Ah, tiens, forcément, on fout le camp si vite que le courrier nous rattrapera jamais. Et c'est pas fini, paraît qu'ils veulent les laisser entrer dans Paris sans rien faire. Oui, ville ouverte, ils disent. Tiens, là, le juteux. Je parie qu'on repart.
Rassemblement, 5 au dos, départ dans 5 minutes, pas une de plus.
Départ pour où, mon adjudant?
Si on te le demande, tu diras que t'en sais rien.
Secret militaire.
Et le vague-mestre, celui qui transporte le courrier, n'en sait rien non plus. On vous apprend des choses, à vous, le spécialiste de la Grande Guerre. C'est un film de 1960 de Jean Kerchbron. Et ce fut la Marne. Il faut le citer. Ils étaient mentalement peu préparés à la guerre. Ils se retrouvent tout de suite ballottés. Alors l'empereur allemand, il est à Metz, mais il est aussi... à Longwy, parce qu'en Lorraine, ça ne se passe pas bien.
Oui, ça ne se passe pas bien en Lorraine à partir du 19 août. Le plan français, le plan 17 français, prévoit une attaque, effectivement, dite bataille des frontières, sur la Lorraine et l'Alsace. Il s'agit symboliquement, d'ailleurs c'est plus un plan symbolique et politique que réellement militaire, il s'agit d'aller se porter le plus rapidement possible sur les provinces perdues. Et les combats de Morhange du 19 août 1914 sont absolument terribles. On a aussi des combats absolument terrible dans les Ardennes belges sur le 23-25 août 1914. Et après ces combats qui sont d'ailleurs la fin d'une espèce d'illusion sur la possibilité de marquer une fin de guerre rapide, eh bien, effectivement, les Français sont en repli.
Et ça se passe encore plus mal du côté de la Belgique, dont la neutralité a été violée, du Nord-Pas-de-Calais qui est envahi.
Tout à fait. On n'est pas encore tout à fait sur... Les combats n'ont pas encore lieu le long de la côte, hein, pour l'instant. Ce sera à l'issue de la course à la mer que les combats atteindront la mer du Nord. Mais le repli français est fort bien préparé par Joffre. C'est un repli, je dirais, en bon ordre. Alors, au prix d'une poigne absolument de fer. Hein. On sait aujourd'hui qu'il y a davantage de fusillés dans les troupes françaises au cours de l'été, de l'automne 14, qu'en 17. Hein.
Il est plutôt autoritaire, c'est le chef de l'armée française, sous les ordres duquel se retrouve son ancien supérieur, Gallieni, qui est nommé gouverneur de Paris. Et alors que le gouvernement a quitté Paris pour Bordeaux le 1er septembre, que le président de la République lui-même est parti le 2, le 3, Gallieni affiche sa détermination à tenir dans un camp retranché.
Les Allemands aux portes de Paris, laissez-moi rire.
Pourtant, pour que le gouvernement soit parti, que Gallieni ait fait poser cette affiche, vous ne croyez pas?
Gallieni veut couper court au bruit des fétistes qui ont circulé ces temps derniers, voilà tout. Voulez-vous mon avis? Eh bien, je sais de sources sûres, et je suis bien placé pour ça, croyez-moi, que ce n'est ni pour vous, ni pour moi que le général Gallieni a fait placarder cette affiche. C'est pour qu'elle soit lue par les espions du Kaiser.
Vous avez lu? Ce mandat, je le remplirai jusqu'au bout. Ils ont la peur au ventre, oui.
Paris sera défendu, c'est tout ce qu'on demande.
Vous en parlez à votre aise. Ça peut aller loin.
Mais c'est ce qu'il faut.
Je me rappelle en 70, quand les Pruscos sont arrivés.
Mais on n'est pas en 70. Tenez, je ne suis qu'une femme. Mais je vous assure que j'en étais malade quand j'ai entendu dire que Paris allait être déclarée ville ouverte.
Mais je n'y ai jamais cru. Paris n'a jamais été sérieusement menacé. Loin de là. Il suffit de lire les journaux.
Oh, les journaux.
Si vous croyez ce que disent les journaux.
Vous ne savez peut-être pas que les Uhlans sont à l'usage.
En 70, déjà, c'est les Uhlans qu'on a vu arriver en premier.
70, le spectre de 1870. On est à une génération.
Oui, c'est un véritable traumatisme. N'oubliez pas qu'un certain nombre de militaires de haut rang de 1914 ont commencé leurs études militaires dans la mouvance de 1870. Le jeune Foch est en train de préparer Saint-Cyr en 1870. Donc effectivement, l'enjeu mémoriel de 1870 se retrouve tout à fait au cours de l'été de 1914 avec les mêmes angoisses.
Vous nous parlez de l'état-major français, là, François Cochet. Il est aussi marqué par le souvenir des guerres napoléoniennes, parce qu'il imagine peut-être des guerres à la façon napoléonienne. Alors, des batailles dans un endroit bien fixé.
Oui et non. Oui, parce que effectivement, l'emprise d'Austerlitz est encore très forte. Et puis, tous les états-majors, que ce soit français, allemand ou anglais ou russe à l'époque, pensent que la guerre sera courte et qu'elle sera réglée avec deux ou trois ou quatre batailles décisives. Bon, donc en cela, effectivement, il y a rappel des guerres napoléoniennes. Mais non sur un autre plan, parce que depuis les guerres napoléoniennes, eh bien, la technologie des armes a terriblement progressé. Et ça, on s'en est rendu compte quand même. Un certain nombre d'experts militaires ont notamment analysé la guerre de Mandchourie de 1904-1905. Et certains ont prédit une guerre longue où les soldats seraient contraints de s'enterrer face à la puissance du feu des mitrailleuses ennemies.
Du côté de l'état-major allemand, général en chef, c'est davantage un curiste de Karlsbad qu'un joueur de casino, non ?
Alors, von Moltke le jeune n'a effectivement pas une forme physique extraordinaire et puis surtout il n'a pas l'aura, le charisme qu'avait son prédécesseur Schlieffen. Et ça va peser assez lourd dans la bataille, d'autant plus qu'il commande loin. Il commande à distance et il va être obligé d'envoyer des missions, notamment la fameuse mission du lieutenant-colonel Hensch, qui va faire reculer, au vu de ce qu'il voit sur le terrain, qui va faire reculer les troupes allemandes.
Et effectivement, quand on commande loin, on peut amener sa femme.
Oui, je ne pense pas que c'était tout à fait la philosophie de von Moltke le jeune.
Mais sa femme n'a pas peut-être joué un rôle très positif, mais c'est un détail. Schlieffen, ça c'est le vieux plan d'invasion de la France et de prise de Paris par le sud.
Par la Belgique, c'est un plan donc de...
Alors par la Belgique d'abord et ensuite par le sud.
De 1907, c'est-à-dire ça c'est basé sur le postulat de la violation de la neutralité belge. Avec d'ailleurs une erreur mentale absolument énorme que commettent les Allemands, ils pensaient que l'armée belge, la petite armée belge, les laisserait passer sans difficulté. Hein, à la limite, se mettrait au garde-à-vous devant eux. Donc, violation de la neutralité belge, que la puissance allemande a pourtant elle-même garantie hein, par le traité de 1839. Et puis ensuite, effectivement, une large inflexion autour de Paris pour prendre les armées françaises dans une gigantesque nasse.
Oui, mais voilà qu'au premier jour de septembre, à l'état-major français, survient une nouvelle inattendue. La première armée allemande ne se comporterait pas exactement comme prévu par le plan allemand connu des Français.
Il rentre déjà ?
Pourtant, son zinc avait l'air de bien tourner.
Alors quoi ? C'est déjà fini, cette mission de reconnaissance ?
Oui, mon capitaine. C'est pour ça que je suis revenu de suite.
Quoi, on va les avoir sur le dos ?
Non, c'est le contraire. Ici ? Et là, sur ces deux routes, il y a quelque chose, hein, du monde et du matériel. La colonne dont j'ai repéré la tête à Étrépilly faisait plus de 15 kilomètres.
Et sur les autres routes, plus à l'ouest, rien ?
Rien, ni eux ni nous. La verte nature, les petits oiseaux.
Tous les renseignements sont concordants. Les cavaliers, l'aviation, les Anglais, et maintenant ce message du général Monoury.
Oui, il n'y a plus de doute possible.
Toute l'armée von Kluck vient de faire à gauche-gauche.
Oui, c'est ça. Von Kluck s'est rabattu brusquement vers le sud-est. Il a été littéralement aspiré par ce vide, là, c'est-à-dire entre les Anglais et la 5e armée. Du coup, il ne cherche plus à déborder Paris par l'ouest. Il va foncer vers la Marne et tenter de la traverser. Tenez, là, entre Château-Thierry et la Ferté-Sougeoire. Il va en défiler devant nous à l'est de Paris et offrir son flanc découvert à Monoury.
Alors, un répit pour Paris et la Marne projetée au premier plan.
Un répit pour Paris, effectivement, parce que l'inflexion de la première armée von Kluck vient desserrer l'étau qui se précisait sur Paris. Le rôle de l'aviation est tout à fait patent, effectivement. C'est une observation d'aviation qui a permis, avec des observations de cavalerie, de confirmer l'inflexion de von Kluck. Et effectivement, le combat se déplace, en quelque sorte, par rapport à ce que les Allemands avaient prévu. Alors, on s'interroge sans cesse sur les raisons qui ont poussé von Kluck à infléchir vers le sud-est. Avait-il des ambitions personnelles de s'emparer personnellement de Paris ou des choses comme ça ou a-t-il jugé qu'il y avait une opportunité à enfoncer le front français? En tout cas, il n'applique pas les directives du plan Schlieffen. C'est
le joueur de casino, lui, aventureux. Dites-moi, vous nous avez parlé des Belges et de leur résistance. Et les Anglais? L'entente cordiale est déjà vieille. Il y a la triple entente. On n'est pas sûr, au tout début de la guerre, que cependant les Anglais vont tenir leurs engagements. Mais il y a l'invasion de la Belgique.
L'invasion de la Belgique, effectivement, est l'élément déclencheur hein, pour les Anglais. C'est vraiment cela qui pousse les Anglais dans la guerre et non pas, bien évidemment, l'Alsace-Lorraine. Simplement, les dernières recherches, notamment en histoire militaire, en histoire des connexions entre les états-majors français et anglais, montrent très bien que l'armée anglaise fait avant dans les années qui précèdent la guerre, fait un effort immense pour organiser son armée de terre et pour prévoir un nombre certes limité de divisions qui viendront en aide aux Français, 4 divisions, 5 divisions ensuite, mais ils font un effort considérable dans le cadre effectivement de l'entente cordiale. Cette entente cordiale est quelque part extrêmement importante parce que c'est elle qui permet effectivement le déploiement des plans militaires.
Alors le corps expéditionnaire britannique est très vite présent. Il est commandé par French, dont les recherches sur l'histoire militaire ancienne le présentent souvent comme plutôt ectoplasme. Alors voici qu'il est secoué là par le maréchal, le général Joffre, qui est, vous nous le disiez, plutôt autoritaire.
Hein. Tout à fait autoritaire, oui, oui.
Cette offensive ne pourra amener la victoire que si demain, l'armée britannique débouche à son tour, au coude à coude, avec la 5e armée du général Franchet des Perret. L'occasion est inespérée et nous ne pouvions la laisser passer en ce qui concerne l'armée française. Mes ordres sont donnés. Je suis décidé à lancer jusqu'au dernier homme dans la balance pour remporter la victoire et sauver la France. C'est en son nom que je suis venu solliciter de toutes mes forces le concours britannique. L'honneur de l'Angleterre est en jeu, monsieur le maréchal.
General, I'll do my best. All my possible.
Au moment où s'engage une bataille dont dépend le sort du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et à refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée.
Mais certains jours de la Marne attristée, on vit s'attendrir les jolis flots d'or, car l'ennemi dans une folle poussée, jusque chez nous osa venir encore. Chacun connaît la célèbre bataille, l'échec complet de leur sinistre plan, quand le combat fut fini. On disait en écoutant ce bruit, c'est le chant des blancs berceurs de la Marne rongée, rythme qui brise le cœur, c'est la chanson marguerite. Elle parle de combat à cette heure émouvante. Pleurez, pleurez, nous chers petits soldats, aux flancs rougis de la Marne sanglante.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La bataille de la Marne avec François Cochet, qui notamment a co-animé le dictionnaire de la Grande Guerre chez Bouquin Lafont. Alors on vous fait connaître beaucoup de choses aujourd'hui. Un film, et ce fut la Marne, ça c'est le rôle de Franck Olivard. Cette chanson, vous la connaissiez ?
Non, pas du tout. C'est une sommet.
Christian, qui nous a été confié par Martin Penet, les flots rouges de la Marne, les flots ensanglantés. Il faudrait dire, plutôt que la bataille de la Marne, il faudrait dire les batailles de la Marne, en fait, pour être exact.
Tout à fait. Les batailles emboîtées, puisque, en fait, la bataille de la Marne, qui ne prend ce nom-là, finalement, qu'à la fin de la guerre, qu'après la guerre, c'est un gigantesque choc de 200-250 km de long. À partir du moment où la place forte de Verdun tient, les Français peuvent se permettre de roquer des troupes plus à l'ouest, et le champ de bataille, proprement dit, est étalé donc de Verdun à Lourcq. Et c'est un choc absolument dantesque de plusieurs centaines de milliers d'hommes de chaque côté.
Et alors, parmi les batailles, il y a la contre-offensive du gouverneur militaire de Paris, Gallieni, dont on ne se cesse de se demander, dans les recherches militaires anciennes et présentes, comment elle s'est articulée aux autres lieux. Alors, cette bataille de Gallieni, elle est symbolisée dans les mémoires par les fameux taxis.
Tu déposes monsieur et madame ici, tu te fais payer ta course et tu te rends à l'adresse indiquée sur cette convocation. Ordre du gouverneur militaire de Paris.
Gallieni réquisitionne les 400 taxis de Paris et 300 voitures de louage pour improviser le premier convoi motorisé de l'histoire militaire. Les agents de police les ont arrêtés dans la rue. Hep, vous êtes réquisitionnés. On marche à la course ou au compteur ? Au compteur. Et à raison de 5 hommes par voiture, 2 régiments, c'est-à-dire 4000 hommes, sont partis pour une destination inconnue. Une drôle de balade aux frais de la princesse. Toute la nuit on a roulé, on s'est arrêté, on est reparti. Une vraie pagaille. Et les voilà à l'aube à 50 km de Paris.
Qu'est-ce que t'en dis, caporal? C'est un vrai plaisir.
Ah, je veux. J'avais jamais posé mes fesses aussi longtemps en auto.
Dis donc, du combien on fait?
Du 20 à l'heure, c'est l'allure du convoi.
Voilà le documentaire de Costel et Turenne, qui renforce peut-être encore trop la légende, diriez-vous?
Non, enfin, le mythe plus que la légende. Lorsque Monory lance la contre-offensive sur Nanteuil-le-Haut-Douin, il dispose de 150 000 hommes contre les Allemands. Les taxis dits de la Marne vont transporter deux régiments, plusieurs bataillons pardon, des 103e et 104e régiments d'infanterie, c'est-à-dire en gros à peu près 4 000 hommes. Donc effectivement, nous sommes beaucoup plus dans le registre du symbole qui devient ensuite mythe à partir de 1915. C'est intéressant d'ailleurs de constater qu'il y a une utilisation des taxis de la Marne à partir de 1915, deuxième moitié de 1915, c'est-à-dire lorsque la guerre est vraiment installée dans les tranchées.
Quand on se rend compte que la guerre est devenue vraiment industrielle. Il faudrait parler de l'automobile, mais il faudrait tout aussi bien parler du chemin de fer.
Tout à fait, et plus encore que des taxis de la Marne. C'est-à-dire que la victoire contre-offensive de Joffre sur la Marne doit infiniment plus à son plan de transport ferroviaire qu'aux quelques milliers d'hommes qui ont été transportés par les taxis. Ceci dit, le symbole est moins fort, l'image est moins belle. N'oublions pas que Joffre appartient à l'arme du génie et qu'il s'est remarquablement... C'est un remarquable logisticien, dirait-on aujourd'hui. Il s'est remarquablement monté un plan de transport. Et c'est bien ça qui est le secret, entre guillemets, de la victoire défensive de la Marne.
Nous sommes dans une guerre industrielle et l'art de la guerre... Peut-être pas dans le cas du général Joffre que vous venez de citer, en est resté souvent à une époque d'avant la révolution industrielle. Alors l'autre image que gardent les Français, c'est celle de l'uniforme trop voyant de nos soldats qu'on fait monter au front, au clairon, de même que du côté allemand, on les fait monter au cor et au tambour.
Tout à fait. De ce point de vue-là, il faut revenir sur un certain nombre d'images d'Épinal. Je rappelle quand même que ce sont les députés français hein, qui n'ont pas voulu abandonner le pantalon Garance et le bleu horizon, hein, et le bleu, pardon, marine du début de la guerre. Les militaires avaient préconisé un uniforme beaucoup plus discret dès 1911, mais les députés français ont estimé que l'uniforme de 14 était le symbole de la nation française. Donc, au lieu d'accuser effectivement un certain nombre de militaires... On pourrait aussi tout aussi bien mettre en cause, les députés français. Ce qui est certain, c'est que il y a, je pense, à l'époque, un choc qui va s'opérer au cours de l'été de 1914 entre des conceptions véhiculées de la guerre, des stéréotypes sur la guerre, qui en sont restés effectivement à des images anciennes, et la réalité du terrain qui, elle, est déjà tout à fait moderne. Ça n'est pas encore une guerre tout à fait industrielle parce qu'on va entrer dans la guerre vraiment industrielle à partir de fin 15, début 16. Mais il y a un choc entre des vieilles conceptions, des vieux stéréotypes sur la guerre, sur l'image qu'on se fait de la guerre et la guerre réelle sur le terrain.
Oui, mais tout de même, il s'agit de jeter au feu le maximum d'hommes. Henri Genevoix, dont on réédite ceux de 14,
tout à fait.
Dit « Nous avons eu 20 morts sur 60 » et il s'entend répondre par son chef « Que ça ?»
Oui, alors attention, il faut quand même contextualiser énormément. Nous sommes dans une époque où la perception de l'homme n'est absolument pas celle que nous avons aujourd'hui. Hein. Les pertes étaient attendues de manière très élevées de toute façon, parce que les experts militaires ont compris qu'il y aurait désormais un mur de feu, que la puissance nouvelle des armes était absolument prodigieuse et qu'il y aurait des pertes très élevées. Le vrai miracle, entre guillemets, pour expliquer la tenue des combattants, c'est qu'on pensait que ce choc ne pourrait pas durer, que les pertes, justement, seraient telles rapidement, les deux nations en guerre seraient épuisées. Et pourtant, elles tiennent. C'est ça.
On peut faire l'expérience devant n'importe quel monument aux morts d'une commune de France. La Grande Guerre, année après année, va engranger beaucoup de morts. Mais les premiers mois, elle a fauché énormément, 100 000 pertes par mois jusqu'au mois d'octobre.
Septembre 1914. Tout à l'heure, nous avons traversé Meaux. Meaux avec ses bateaux, la Voire coulée dans la Marne et son pont détruit. Puis nous avons pris la route de Soissons et gravi la côte qui nous élevait sur le plateau du Nord. Et alors subitement, comme si un rideau de théâtre s'était levé devant nous, le champ de bataille nous est apparu dans toute son horreur. Des cadavres allemands ici, sur le bord de la route. Des cadavres noirâtres, verdâtres, décomposés. Des cadavres d'hommes, des cadavres de chevaux. Une odeur de charnier monte de toute cette pourriture. Au moment où je trace ces lignes, je la sens encore éparse autour de moi, qui me fait chavirer le cœur. En vain, le vent soufflant en rafale sur la plaine s'efforçait-il de balayer tout cela. Mais il n'arrivait pas à chasser l'odeur de la mort. Champ de bataille, ai-je dit plus haut ? Non, pas champ de bataille, mais champ de carnage.
Le 8 septembre, la garde impériale, l'élite de l'élite, a reçu l'ordre d'attaquer à l'aube, par surprise, à l'arme blanche. Le général Graf von Hülsen était alors aspirant au 1er régiment des grenadiers de la garde.
Le matin, 4 heures, commençait l'attaque avec des baïonnettes au canon, les officiers en avant, l'épée au poing. Le tambour battant, on se précipitait sur les divisions françaises.
Là, c'est l'attaque allemande à Saint-Gron. Grand lieu, Saint-Gron, les marais.
Tout à fait, c'est la partie centrale du front qui est tenue par Foch. Et là aussi, ça illustre, à mon avis, assez bien ce que je disais à l'instant sur le choc entre des mentalités et des technologies. Les Allemands attaquent à Saint-Gon, effectivement, à l'arme blanche. C'est un des rares combats où l'arme blanche va être aussi présente. Parce que contrairement à ce que l'on dit, l'arme blanche a peu tué pendant la Grande Guerre. Mais ils attaquent à la manière de 1870, pour le coup. Et c'est assez notable. Et leurs pertes à Saint-Gon sont absolument ahurissantes. Et le village, le château de Mondement, qui constitue le verrou des marais de Saint-Gon, sont perdus par les Français, puis repris par les Français le lendemain. Et les pertes sont absolument terribles.
J'ai osé une question, le général von Moltke. Il était assez insensible aux prisonniers français, aux civils français. Il était peut-être assez concerné par le sort de ses soldats. Peut-être davantage que l'état-major français.
Oui, n'oublions pas que nous sommes dans des sociétés qui sont beaucoup plus proches que nous de la mort, et de la mort au quotidien notamment. Et effectivement, le sort du soldat à l'époque est considéré. Le soldat est fait pour être tué, quoi, disons les choses assez brutalement. Ce sont aujourd'hui des propos qui paraissent inadmissibles, mais à l'époque, c'est la philosophie généralement admise. Aussi bien côté français que côté allemand. Et effectivement, encore une fois, les pertes à Saint-Gon, les pertes allemandes à Saint-Gon sont terribles. Mais ce sont ces types de combats qui, paradoxalement, vont donner naissance à la guerre de tranchées. C'est-à-dire que le type de combat de Saint-Gon n'est plus possible rapidement parce que, justement, le taux de perte est beaucoup trop élevé.
Et le comportement des troupes allemandes vis-à-vis des civils, des zones qu'ils occupent, on a vu à plusieurs reprises des civils utilisés comme boucliers allemands pour l'avance allemande.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a un seuil qui a été franchi là, selon
alors,
vous ?
Vaste débat. Les historiens de la Grande Guerre débattent entre eux sur le franchissement ou pas de seuil. Cette pratique des otages et des boucliers humains est attestée déjà en 1870, pendant la guerre civile états-unienne également. Je pense que ce qui ressurgit dans le comportement des armées allemandes, dans les exactions très réelles de l'été de 1914, c'est justement la hantise de 1870. Là, on a un rejet mémoriel énorme parce que les Allemands ont peur de ce qu'ils appellent la guerre populaire, la guerre du peuple. Et ils voient, si vous voulez, des francs-tireurs partout. Et comme ils ont très peur, eh bien, effectivement, ils essaient de se protéger.
100 000 pertes par mois en août, septembre, octobre, du seul côté français.
Je maintiens mon ordre. Offensive, offensive, offensive.
La journée sera à qui tiendra le plus. On gagne les batailles avec des restes.
Ça ne va pas fort.
Nous ne sommes pas brillants, c'est entendu. Mais l'ennemi non plus, croyez-moi.
La bataille de la Marne s'achève en victoire incontestable. Il ne reste plus qu'à gagner la guerre.
Ça balance pendant quelques jours. Le succès est assuré le 9, le 10. On se rend compte qu'au bout d'un moment, que c'est une victoire. D'ailleurs, le général Joffre, qui est peut-être un peu autoritaire, explique au gouvernement qu'il faut qu'il reste à Bordeaux, que rien n'est encore joué.
Oui, tout à fait. N'oublions pas que nous sommes dans la conviction que la guerre sera courte. Et effectivement, Joffre estime que, à lui, les opérations militaires, à lui de gagner la guerre, en quelque sorte, et le gouvernement peut rester à Bordeaux, il ne s'en plaint pas. Victoire incontestable, dit votre document. Victoire défensive incontestable, c'est certain. Mais victoire épuisante. Et les troupes qui reconquièrent, par exemple, Reims le 12 septembre, leur premier réflexe, c'est de s'endormir sur les trottoirs de la ville libérée. Et puis, victoire épuisante aussi sur le plan matériel. Les caissons sont vides, on ne peut plus poursuivre.
On a surtout compris après la bataille de la Marne que la guerre serait longue. Musée de la Grande Guerre, ouverture le 11 novembre 2011 au nord-est de Meaux avec la collection extraordinaire de Jean-Pierre Vernet. Et puis début des célébrations auxquelles vous serez associé, François Cochet, de 1914 à Péronne, à Verdun, dans toute la Meuse, et proposition d'inscription du paysage de la bataille de la Marne et puis de tous ceux du front occidental au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'émission a été préparée, relevant son rôle de sourcier en chef par Frédéric Martin, et réalisé par Jacques Sigal avec le concours de Michel Thomas et de Dofar Guérit. Et demain, nous sommes à la même heure à Grenoble, à 13h30, à la Maison de la Culture. Refaire société, c'est le thème des rencontres qu'anime Pierre Rosanvallon, qui sera notre invité. Il est 14h, vous écoutez France Inter.